Et nous allons, troisième épisode, passer au panel philosophique avec Sylvie Allouche. Merci beaucoup Sylvie, depuis le début tu t'es investie dans ce projet, donc c'est bien qu'on termine avec toi.
Voilà, bon, donc c'est à moi de conclure cette journée très longue.
En disant Buffy c'est pas bien.
Voilà, alors non, pas du tout, pas du tout. J'ai été briefée. Donc moi je vais essayer de présenter le point de vue philosophique. Donc cela fait plusieurs années en fait que j'ai entamé une réflexion sur la façon dont la science-fiction peut nous aider à mieux philosopher. Buffy diffère donc assez radicalement de mes objets d'enquête courant, puisque ce n'est pas de la science-fiction. Cette incursion exceptionnelle hors du domaine de la science-fiction va me permettre en fait de préciser dans une espèce de conversation continue que j'ai avec Anne depuis de colloque en colloque depuis un certain nombre d'années, de préciser le type de réflexion que la science-fiction ouvre et que neutralisent des fictions comme Buffy. La première partie de cette communication consacrée à la question de la suspension d'incrédulité dans Buffy me conduit à expliquer dans la deuxième partie pourquoi le type d'enquête prospectiviste que je conduis habituellement n'est pas possible à mener dans le cadre du Buffyverse. La troisième partie se propose d'examiner les pistes d'exploration qui demeurent ouvertes et je m'appuierai essentiellement sur ce livre qui est aussi apparemment la Bible de Sandra, Buffy and Philosophy. Avant de rentrer complètement dedans, deux petites remarques. D'abord, je vais faire la distinction entre, d'une part, réaliste, au sens de qui utilise les techniques de narration du récit réaliste, tel qu'il a été mis en place plus ou moins au XIXe siècle, et réaliste, au sens de qui présente des événements susceptibles d'avoir eu lieu dans le monde réel, tel que nous le connaissons. Donc, autrement dit, Buffy est plus ou moins réaliste et, parce qu'il y a des vampires, etc., n'est pas réaliste. Voilà, c'est une distinction qui va me servir dans la suite. Par ailleurs, comme je vais formuler, d'après mes lecteurs, une position critique, peut-être un peu trop vis-à-vis de Buffy, je tiens donc à préciser que je trouve que Buffy est une série de qualité et que les intérêts, de façon générale, sont intéressants, en particulier sur le plan psychologique. De temps en temps aussi, donc il y a ces exercices de style comme l'épisode sur les gentlemen qui sont vraiment magnifiques. Et bon, de façon générale, la série présente des épisodes avec des scénarios rythmés, des protagonistes si réalistes qu'ils en deviennent des amis, beaucoup d'humour, une certaine virtuosité dans les dialogues, etc. Voilà. Alors, donc, je vais commencer par le problème de la suspension d'incrédulité dans Buffy. Buffy constitue en effet un cas particulièrement intéressant, à mon avis, pour comprendre comment fonctionne ou ne fonctionne pas la suspension d'incrédulité, qui est typique des littératures de l'imaginaire, dans la mesure où il existe un certain nombre d'éléments dans la série qui rendent, à mon avis, difficile cette suspension. Et Anne en a déjà parlé d'une certaine manière. Donc elle a répondu, en fait, d'une certaine manière, par avance, aux remarques que je fais. L'élément qui saute le plus aux yeux est sans doute le maquillage des cartons-pâtes des vampires et autres démons, ou encore la dimension chorégraphique des combats, ou encore les mots d'esprit qui ponctuent assez systématiquement ces combats, et il y a encore de nombreux autres exemples qui empêchent une immersion complète de type réaliste dans la vie. Plus fondamentalement, le récepteur peut aussi avoir du mal à suspendre son incrédulité vis-à-vis du pitch initial selon lequel 1. Le poids de la protection de l'humanité tout entière repose sur les épaules d'une seule slayer, et 2. Les méchants en mal d'apocalypse s'installent systématiquement dans ce haut lieu de mysticisme qu'est Sunnydale. Des justifications sont cependant régulièrement apportées. Ainsi, sur le dernier point évoqué, l'explication est apportée à travers assez rapidement la très mystique bouche de l'enfer qui se trouve justement à Sunnydale. Giles rationalise aussi assez tôt dans The Harvest, un des premiers épisodes, le fait que les habitants de Sunnydale semblent eux-mêmes rationaliser ou oublier les innombrables événements surnaturels auxquels ils assistent. Il faut aussi insister sur le rôle du maire de Sunnydale qui a fait en sorte justement de faire de Sunnydale un vivier à démons particulièrement important. Une procédure auto-justificationnelle paradoxale consiste aussi à tourner en dérision en interne certaines invraisemblances structurelles. Je pense par exemple à l'épitaphe inscrite sur la tombe de Buffy quand elle meurt à la fin de la saison 5. « She saved the world a lot ». Donc elle a sauvé beaucoup le monde. Donc l'ensemble de ces éléments qui rappellent en permanence en fait que, au spectateur qu'il est en train de regarder une fiction, peut sans doute être interprété, donc empêche une immersion complète de type réaliste dans la fiction, et peut sans doute être interprété comme une sorte de solution anti-bovariste, Buffy, Bovary, peut-être y a-t-il une piste pour ce nom, une sorte de solution anti-bovariste de Buffy, mais demeure cependant un dernier trait global d'invraisemblance du Buffyverse, à savoir le traitement des éléments SF dans la série. Et c'est de ça que je vais traiter. Je signale aussi que Joss Whedon assume complètement, et bon, Anne y a fait référence, le fait que Buffy, enfin qu'il y a une dimension d'autodérision et de référence à d'autres fictions permanentes. Buffy intègre au fil de ses histoires, en un joyeux syncrétisme, des topoi tirés de l'imaginaire SF. Or, si les récepteurs, les spectateurs du type d'Anne, je pense en fait ici à la communication qu'elle a faite pour le mois de la science-fiction en 2006, donc si les récepteurs du type d'Anne accordent peu d'importance au fait de savoir si au fond tout ça tient debout du moment que ça fait de bonnes histoires, les récepteurs rigoristes de la science-fiction, dont je représente une frange ultra, considèrent que cette question de cohérence interne des événements qui sont décrits est justement le point central du genre science-fiction et ce qui distingue en fait en grande partie du fantastique et de la fantasy. Donc un premier argument pourrait se résumer à la phrase suivante, le Buffyverse n'a pas fait sa révolution copernicienne. Si l'on comprend que les vampires soient sur Terre, pourquoi les autres démons, puisqu'ils sont originellement humains, pourquoi les démons ne vont-ils pas tranquillement s'installer depuis la dimension infernale dont ils viennent? Pourquoi ne vont-ils pas s'installer ailleurs que sur la Terre, où il n'y a pas de Slayer, ou en tout cas on ne sait pas s'il y en a, et ils seraient plus probablement tranquilles, plus tranquilles? Donc une réponse possible serait que les démons, en tant que démons, ont besoin de faire le mal, justifié, semble-t-il, à l'intérieur même de la série, et que pour cela, pour faire le mal, il faut des victimes potentielles. Et peut-être que les humains, du fait même qu'ils ont une conscience morale, qui est un point fondamental sur le plan thématique de Buffy, constituent une proie bien plus délicieuse que d'éventuels extraterrestres qui n'auraient pas de conscience morale. L'argument qui consisterait à dire, par exemple, que les démons apparaissent sur Terre parce qu'ils viennent eux-mêmes d'une Terre parallèle nous paraît renvoyer à nouveau à la métaphysique pré-copernicienne profonde du Buffyverse. Donc, à mon avis, avec mes lunettes science-fictives, il y a vraiment un problème d'extension du monde et du fait qu'il y a des dimensions on ne comprend pas, ou je ne comprends pas, ou je fais semblant de ne pas comprendre pourquoi les démons se retrouvent systématiquement sur Terre, et même plus spécifiquement à Sunnydale. Donc il y a un certain nombre d'objections qui peuvent être faites, peut-être qu'on aura le temps d'en parler ensuite. Venons-en au plat principal de mon argument, qui est le traitement des robots dans Buffy, parce qu'il y a des robots. La première fois que la figure du robot apparaît, ça a déjà été mentionné, c'est avec le personnage de Ted, dans l'épisode éponyme de la saison 2, épisode 11. Or, dès cet épisode se pose une série de problèmes importants en termes réalistes qui ignorent tout simplement les auteurs de Buffy, alors qu'ils constituent un élément fondamental du réalisme science-fictionnel. Question qu'on peut poser par exemple, est-ce qu'il est vraiment vraisemblable de supposer qu'un homme, aussi génial soit-il, parvienne tout seul dans son coin et dans le plus grand secret à fabriquer une copie robotique de lui-même? À supposer que cela soit vraisemblable, soit vrai même. Est-il vraisemblable que des institutions publiques ou privées ne parviennent pas elles aussi dans la même période au même genre de résultats? Et que du coup, la société tout entière dans laquelle vit Buffy ne soit pas du coup révolutionnée par l'existence de tels robots. Les critiques de science-fiction distinguent souvent deux types de science-fiction selon leur façon d'utiliser les machines. Donc, par exemple les robots. Ou SF qui va au bout d'elle-même, représentée en fait par Wells, et qui examine la façon dont la machine féconde en quelque sorte la société. Et une SF qu'on peut dire interrupta, selon une métaphore un peu scabreuse, représentée par Jules Verne, qui se débrouille pour, mais qui s'enchaîne très bien avec ce que tu dis, représentée par Jules Verne, qui se débrouille pour détruire les machines avant qu'elles aient pu avoir quelques conséquences sociétales au-delà de l'aventure ponctuelle racontée. Buffy se placerait alors plutôt évidemment du côté de Jules Verne que de celui de Wells dans son traitement des machines. Or, ma recherche consiste à essayer d'évaluer l'intérêt philosophique éventuel des œuvres de science-fiction qui proposent des spéculations raisonnablement vraisemblables, à la fois concernant le développement technologique appliqué à l'homme et ses enjeux philosophiques. De toute évidence, Buffy n'entre pas dans mon domaine habituel d'investigation. Du fait de l'invraisemblance conséquentialiste en termes de technologie que je viens de décrire, et plus fondamentalement par la position typique du genre fantastique ou fantasy, d'entités qui n'existent pas en réalité, parce qu'elles sont, enfin, qui n'existent pas comme les vampires, enfin bon, en tout cas, c'est ce que les gens sérieux considèrent, ou parce qu'elles sont d'ordre métaphysique comme l'âme, les univers parallèles, etc. Donc, bref, le Buffyverse n'est pas réaliste, comme je le disais au début, et une analyse philosophique de type prospectiviste que j'ai l'habitude de mener n'est pas conductible sur cet univers. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne peut pas philosopher sur Buffy ? Évidemment non, comme le prouve cet ouvrage et d'autres. Une voie possible, et qui illustre justement cet ouvrage, consiste à s'efforcer d'identifier dans la série, comme peut-être dans n'importe quelle fiction, des éléments qui rappellent telle ou telle philosophie déjà existante et qui justifient une mise en parallèle, éventuellement fondée sur une métaphorisation préalable. Le problème cependant, si l'on accepte ce principe paralléliste, c'est qu'il autorise a priori les interprétations les plus contradictoires, reflétant là finalement la situation du monde réel où d'innombrables interprétations contradictoires en sont données sur le plan philosophique et polysémie de l'œuvre univers qui fait en tout cas certainement les délices tant des fans que des universitaires et donc ce que je vais vous expliquer brièvement à partir de Buffy and Philosophy. En effet, dans le premier article de ce recueil, Greg Forster défend par exemple que la thèse que l'éthique de Buffy, telle en particulier qu'il la décrit dans le parcours de Faith, donc la Slayer concurrente, l'éthique de Buffy est en réalité platonicienne. Peut-être que ça ne vous était pas apparu d'emblée. L'article 2 de Carl Schutt, qui porte aussi sur le personnage de Faith, abonde en fait dans le même sens et défend l'idée que le visionnage de Buffy peut constituer une stratégie de réponse à la dissolution nietzschéenne de la morale, parce qu'elle accomplit ce que la raison ne peut pas, en persuadant plutôt que convaincant, grâce à la communion empathique suscitée par la fiction et tous les processus d'identification qu'elle induit. Dans le troisième article, Jessica Pratt-Miller montre comment Buffy, qui manifeste une éthique comparable à l'Ethics of Care développée par Carol Gilligan, dont peut-être que Sandra voudra parler, Buffy fournit même le moyen de répondre à certaines objections soulevées contre cette éthique. Donc, je ne peux bien sûr faire une revue détaillée de l'ensemble des articles, il y en a une vingtaine, mais la démarche suivie par la totalité d'entre eux consiste bien à prendre une doctrine déjà existante et à interroger ou à affirmer plus dogmatiquement la correspondance entre cette théorie et les valeurs identifiables de Buffy, produisant l'effet chaotico-relativiste redouté plus tôt. Buffy apparaît alors non seulement comme une série platonicienne, anti-nietzschéenne, féministe, comme ça a été aussi présenté aujourd'hui, noire dans le sens du film noir, mais aussi jamesienne, selon un philosophe qui s'appelle William R. Jones, mais encore pluraliste, pragmatiste, kantienne, postmoderne. Buffy est encore enrôlée dans les bataillons des éthiques de la vertu, Et sa vie sentimentale compliquée est utilisée comme clé pour résoudre le paradoxe aristotélicien de l'amour. Sur un plan plus politique, est aussi successivement examinée sa dimension fasciste, utilitariste, conservatrice, marxiste, libérale, etc. Si l'on souhaite alors classer les différentes façons dont ces articles philosophes sur Buffy, on peut distinguer, me semble-t-il, trois types de démarches, ou plutôt trois niveaux d'approfondissement d'une seule et même démarche. Si en effet certains de ces articles se contentent pour l'essentiel de la seule procédure de mise en parallèle que je viens de décrire, à laquelle donc tous ou presque recourent, d'autres auteurs font un pas de plus et utilisent la série comme une source propre d'arguments nouveaux dans le cadre de tel ou tel débat philosophique. Menant alors au bout la prise au sérieux de l'effectivité philosophique de la fiction, quelques auteurs développent l'idée que Buffy, pour la raison même qu'elle est une fiction, constitue une source possible de réflexion philosophique spécifique, et c'est ce que j'essaye de faire à ma manière avec la science-fiction, avec le modèle prospectiviste, donc une source possible de réflexion philosophique spécifique en interaction avec la philosophie institutionnelle. J'en ai donné un exemple avec l'article 2 qui présentait donc Buffy comme une source de anti-nietzschéenne, de stratégie anti-nietzschéenne. Il y a aussi, par exemple, l'article 12. Plus classiquement, donc dans le même esprit d'une effectivité philosophique, Buffy et les fictions en général peuvent être considérées comme une source de réforme de nos représentations collectives. Haraway dirait sans doute de nos mythes. Je pense en particulier à l'article 5 qui dévoile des idées assez proches d'Elsa sur donc le fait qu'il y a une éthique de la violence mise en place dans Buffy qui peut permettre aux femmes de prendre conscience de leur capacité et à la fois de leur prendre conscience de leur capacité à être violente et en même temps la possibilité de contrôler cette aptitude. Il est en tout cas frappant de constater, alors que ce n'est pas forcément évident à la lecture de la seule table des matières, qu'en fait la totalité des articles du recueil traite de questions éthiques, au moins en partie et souvent totalement. La seule exception, ou presque, étant le très intéressant article d'Andrew Aberdeen, qui est presque exclusivement centré sur l'épistémologie. Donc cette domination de la question éthique n'étonnera pas les lecteurs de Paul Ricoeur, entre autres, qui rappelait déjà dans Soi-même comme un autre que, je cite, « il n'est pas de récit éthiquement neutre. La littérature, qu'on peut étendre à la fiction en général, la littérature est un vaste laboratoire où sont essayées des estimations, des évaluations, des jugements d'approbation et de condamnation, par quoi la narrativité sert de propédeutique à l'éthique. » Cette idée, dans son principe général, étant bien sûr aussi formulée à plusieurs reprises dans ce recueil, par exemple sous la plume de Green et Huen, où ils disent à propos de la série Through allegorical depiction of ethical situations, it reflects the complexity of the moral world in which we live. La centralité du questionnement éthique au sein de l'investigation philosophique de Buffy s'explique très bien donc par 1. La centralité évidente du thème dans la série, 2. Le fait, si l'on suit donc Ricoeur, que ce questionnement spécifiquement éthique est constitutif en fait de la fiction, de l'essence de la fiction, et 3. Il me semble aussi donc que cette centralité de la question éthique procède aussi de la nécessité qui s'impose presque spontanément quand on prétend philosopher avec la fiction, d'examiner ce qui dans celle-ci nous parle du monde réel, et donc dans le cas de Buffy, série fantastique, ce sera naturellement plus l'éthique que l'épistémologie, puisque comme je l'ai expliqué, celle-ci est réduite à la portion congrue, ou encore la métaphysique qui est complètement différente, comme je vais en parler ensuite. Et comme le soulignent d'ailleurs eux-mêmes les auteurs en disant oui, bon, on va s'intéresser à l'éthique parce que du point de vue philosophique, c'est quand même ce qui nous parle le mieux par rapport à des questions philosophiques du monde réel. Je souhaite cependant, pour finir, montrer qu'une troisième démarche philosophique, donc la première, c'est la démarche prospectiviste que j'ai brièvement présentée et donc qui ne marche pas avec Buffy. Une troisième démarche philosophique, ni prospectiviste ni paralléliste, purement gratuite, peut-être même fondamentale, dans le sens où nous n'espérons a priori rien en tirer pour notre connaissance du monde réel, où notre interaction avec celui-ci pourrait être encore menée. Un thème en effet, quasiment jamais abordé par les auteurs de Buffy en philosophie et absolument pas abordé ou seulement très ponctuellement au cours de cette journée, je peux dire ça maintenant que je suis la dernière, un thème dont quasiment jamais abordé a pourtant fortement excité ma curiosité philosophique, à savoir la façon dont est mis en œuvre le thème des dimensions parallèles qui constitue, ceci expliquant peut-être cela, un nouvel emprunt et une reconfiguration d'un topos cher à la science-fiction. On peut bien sûr considérer comme précédemment que ce thème vaut surtout comme signe d'autre chose, comme Marika Moiseff l'a présenté brièvement à la fin de sa communication, depuis l'ethnologie, ou encore James Lawler dans Buffy and Philosophy, qui y voit une analogie avec la caverne de Platon, les dimensions parallèles comme la caverne de Platon, ou encore avec la cosmologie de Kant dans son Histoire naturelle universelle et théorie des cieux. Mais on peut aussi se contenter de prendre, et c'est ce que je vais essayer de défendre ici selon le temps qui me reste, mais on peut aussi prendre ce que la série dit au premier degré et tenter de comprendre la notion métaphysiquement très excitante de dimension infernale pour le seul intérêt qu'elle présente. Bon, j'aurai éventuellement du temps, mais allez, continue. Donc je m'arrêterai ici, mais j'espère en avoir en tout cas suffisamment dit pour suggérer qu'il peut y avoir un sens philosophique à explorer pour eux-mêmes les mondes fictionnels. Mais même si je ne l'ai pas trop développé, il ne faudrait pas en inférer que cette éventuelle exploration pour eux-mêmes des mondes fictionnels, par exemple les dimensions métaphysiques, concerne uniquement ce genre de questions. Et on pourrait aussi admettre une preuve comparable au sujet de l'éthique, mais... s'intéresser au monde de Buffy et au monde fictionnel pour eux-mêmes, pas seulement, par exemple, en s'intéressant sérieusement à qu'est-ce que c'est qu'une dimension infernale chez Buffy, mais ce type de réflexion en interne peut aussi s'appliquer à d'autres questions philosophiques, y compris éthiques. Donc l'idée que je veux défendre ici, c'est qu'on peut s'intéresser à l'éthique dans Buffy, pas uniquement pour voir en quoi elle peut nous intéresser sur le plan réel, mais à l'intérieur du monde. Et je proposerais, si j'avais un petit peu plus de temps, d'inverser, puis parce qu'il faudrait en plus, j'ai tout ce qu'il y a dans le livre, on pourrait donc inverser l'astucieuse proposition que fait l'un des auteurs du livre, Jason Kawan, qui propose de remplacer le « should we do what Buffy do » que se pose comme question Xander. Jason Kawan propose de remplacer cette question en disant en fait qu'elle ne tient pas pour nous dans le monde réel, par en fait la bonne question qu'on peut se poser, c'est « what would Buffy think they should do ?» Donc qu'est-ce que Buffy penserait que nous pourrions faire ? Voilà la bonne question qu'il faut se poser si on veut prendre Buffy comme modèle dans le monde réel. Donc là, je dis oui, bon, c'est une très bonne idée, mais on peut aussi dire oui, mais ça peut être intéressant en restant en interne dans le monde fictionnel, ou en prenant en sérieux le monde fictionnel, de garder la question should we do what Buffy do dans le monde réel et pas dans le monde fictionnel. Voilà. Si l'on tient malgré tout à légitimer cette entreprise d'exploration désintéressée que j'essaye de défendre ici des univers fictionnels, en la rendant malgré tout conforme au but de la recherche philosophique qui reste bon an, mal an de produire une connaissance, on peut alors défendre l'idée qu'explorer le Buffyverse et n'importe quel univers fictionnel comporte en soi une valeur cognitive autosuffisante, en admettant par exemple que les mondes fictionnels sont comme des fenêtres et les seuls dont nous disposerons jamais pour connaître, au sens le plus fort du terme, les autres mondes possibles, surtout si on leur accorde, mais pas seulement, comme le fait David Lewis dans « De la pluralité des mondes », dont une traduction est parue il n'y a pas très longtemps, si bien qu'on accorde au monde possible une réalité aussi solide qu'au nôtre, effet de fenêtre, hein, effet de réel, part, effet de fenêtre, d'autant plus convaincant qu'il est inscrit dans le cas des séries, dans la matérialité même du poste de télévision. Alors là, je ne sais plus ce que j'ai gardé. Donc, une fois mis en évidence que la démarche prospectiviste, je conclue, hein, ne pouvait être utilisée pour Buffy, j'ai donc proposé d'examiner une seconde démarche qui consiste à mettre en évidence le parallèle entre la fiction étudiée et telle ou telle doctrine, bien ou moins bien connue, telle ou telle doctrine philosophique ou autre. J'ai mentionné plusieurs exemples de cette démarche paralléliste dans Buffy and Philosophy, mais on la retrouve associée à d'autres œuvres paradigmatiquement Matrix. Je pense par exemple au Matrix Machine Philosophique de 2003 et à de nombreux autres ouvrages parus en anglais, notamment le grand frère de Buffy and Philosophy, The Matrix and Philosophy, et aussi le petit dernier, Battlestar Galactica et and Philosophy, hein, dans la même collection. Cependant, donc, il nous semble qu'une troisième démarche doit pouvoir être aussi mise en œuvre, qui consiste, indépendamment de toute mise en relation avec le réel, à étudier les enjeux philosophiques propres au monde fictionnel considéré. Cette dernière démarche occupe alors une position tout à fait paradoxale, dans la mesure où elle est à la fois sous, voire non représentée, dans les analyses académiques, alors qu'elle correspond, nous semble-t-il, à la démarche spontanée du récepteur inscrit de la fiction, plus concrètement du fan. Je pense par exemple à la thèse sur Spike, évoquée dans Buffy, effectivement écrite par des fans et disponible sur l'internet, démarche plus fidèle à notre sens, à l'idée même de fiction, en dialogue direct avec les auteurs dans la construction et la découverte du monde. Voilà, j'ai fini.
Merci beaucoup, Sylvie, de terminer sur cette note de provocation et on va certainement en discuter. Merci surtout vraiment à toutes les trois pour cet ensemble extrêmement cohérent. C'est vrai que jusqu'ici, on a beaucoup vu la richesse propre du matériau Buffy et là, je crois que vous montrez comment en fait Buffy est aussi utilisable dans des disciplines, dans un travail de terrain et ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, je crois que ça rejoint d'un autre point de vue, hein, justement, beaucoup de questions qui ont été posées aujourd'hui. Donc, étant donné que vous avez en plus été super raisonnable sur le temps, contrairement à d'autres, je pense que nous pouvons vraiment avoir quelques moments de discussion et revenir aussi sur des points qu'on n'a pas forcément approfondis assez dans la journée. Donc, si vous avez des questions dernier moment. Moi j'avais un petit mot à dire à Sylvie, bien entendu, j'ai en profité pour dire une ou deux choses qui m'intéressaient à propos de Buffy and Philosophy, hein, et je te remercie beaucoup d'avoir parlé de cet ouvrage. Je crois que tu as tout à fait raison de dire que c'est un ouvrage qui est en fait typique d'un certain académisme un peu scolastique américain, au sens où on va en effet plaquer des théories et des ismes, utilitarisme et d'autres sur Buffy, et que beaucoup de chapitres, du coup, sont pas tellement intéressants, en tout cas moins intéressants en effet qu'une étude vraiment fouillée sur Spike ou sur tel aspect ou sur tel épisode, tel qu'on pourrait, voilà, tel qu'on pourrait la faire ailleurs, ou ce que vous avez fait les unes ou les autres. Je voulais simplement dire que malgré tout, d'abord il y a un ou deux articles que je trouve intéressants. En dire un mot. D'autre part, il me semble qu'il y a un autre type d'académisme qui consiste à dire qu'est-ce qui est proprement philosophique, qu'est-ce que c'est donc la vraie philosophie sérieuse qu'il faudrait faire sur Buffy et qui serait donc quelque chose qui aurait à voir avec la connaissance que ça apporte, l'aspect plus métaphysique, qui est très intéressant aussi, mais il me semble que justement l'intérêt philosophique, alors là, de quelque chose, d'un objet comme Buffy et de l'effet que vous avez très bien décrit hein, les unes et les autres, c'est justement de déplacer aussi l'idée de ce que c'est l'intérêt philosophique. Par exemple, dire, c'est surtout sur l'éthique. Hein, d'accord, mais qu'est-ce que c'est, tu vois, qu'est-ce que c'est que l'éthique d'abord, et en quoi est-ce que l'éthique serait un domaine particulier? en quoi est-ce que c'est pas réellement pertinent philosophiquement, mais en général, pas seulement pour l'éthique, que Buffy soit quelque chose qui, de fait, permette une formation morale, la réflexion sur des enjeux moraux. Par exemple, qu'est-ce que Buffy ferait à ma place, cet article ? Il pose une question intéressante, même si la réponse est idiote. La façon dont Buffy peut être un exemple, y compris pour des garçons, pour des hommes mûrs, etc.
C'est la question que les chrétiens américains posent en général à propos du Christ.
Oui.
Moi, c'est ça qui m'a frappé. Qu'est-ce que le Christ ferait à ma... Qu'est-ce que Jésus ferait dans ce cas
C'est Sander qui, effectivement, qui dit qu'est-ce que Buffy...
Il fait parallèle avec le Christ et Bouddha en disant que c'est une méthode classique de questionnement moral, propres éthiques de la vertu, de dire qu'est-ce que ferait mon modèle.
D'accord. Donc en fait, je crois que c'est une question qui est intéressante en soi, de savoir qu'est-ce que c'est que la place de l'éthique en fait dans tout ça. Par ailleurs, j'avais du coup une question aussi. Sur le féminisme, puisqu'on voit bien que c'est un point quand même très central, c'est vrai qu'il y a certains articles qui, disons, posent des thèses féministes de façon un peu caricaturale. En même temps, je crois que c'est très important de montrer, je crois qu'on a eu raison d'insister là-dessus, de montrer que Buffy est vraiment une étape très importante.
Ah oui, non, mais c'est vraiment...
Point de vue-là.
J'ai peut-être été un peu ironique, mais je crois que les articles sont intéressants.
C'est pas un sujet à part en disant... Et après, il y aurait la vraie réflexion métaphysique ou épistémologique. Je veux dire, c'est central. Par ailleurs, ce que je trouvais intéressant dans Buffy et dans le féminisme de Buffy, je pense que c'est vrai qu'évidemment l'aspect de dire c'est bien une femme forte, costaud qui kicks ass, comme dit l'article, c'est très important, mais le fait que ce soit une forme féminine aussi d'éthique, et je crois que l'article sur l'éthique du Caire, c'est vrai qu'il est quand même intéressant pour ça, je crois que c'est un point qui est très très novateur et qui est montré dans Buffy, qui n'est montré nulle part dans aucun autre matériau, ni philosophique, ni littéraire, ni fictionnel, à ma connaissance. Et le fait que Buffy soit un corpus où on peut avoir quand même, disons, l'idée qu'une éthique du cœur, du souci des autres, n'est pas une éthique de la faiblesse et de la minuscule, c'est quand même extrêmement important. Elsa, tu le tiens particulièrement, c'est aussi une éthique de l'autonomie, et que l'éthique, c'est pas seulement la justice et l'égalité, mais qu'il y a lui des formes d'impartialité qui sont importantes en éthique. Et là, tout le débat qu'il y a soit entre Buffy et Faith, qui est un modèle vraiment justement masculin de justice, soit entre Buffy et les gens d'initiative avec Riley, où elle lui dit qu'il est vraiment un idiot parce qu'il veut avoir une stricte morale classique en termes d'impartialité. Je crois que c'est des débats que je trouve pour ma part très, très puissants et très centraux. Donc dire ça s'occupe que d'éthique, donc je pense que ça veut rien dire. C'est un petit plaidoyer pour la philosophie morale, parce que l'intérêt, et d'ailleurs c'est un peu ce que montrait tout ce que vous disiez, c'est vrai que l'enjeu moral et de formation, finalement, par la série, c'est vraiment cela qui aussi nous réunit. C'est vraiment...
Oui, c'est peut-être au vu du programme, on avait l'impression que l'éthique allait être très bien représentée.
Non, mais j'ai peut-être été un peu ironique, je pense que c'est effectivement la dimension éthique est importante et de façon légitime. Et l'article auquel tu fais référence, j'ai revu les 5 premières saisons à l'occasion de... Enfin, j'ai eu le temps malheureusement de voir que les 5 premières saisons et j'ai été effectivement frappée de la justesse de cet article et du fait que c'est tout à fait frappant de voir comment à chaque fois que Buffy s'écarte en fait de ce qu'elle devrait faire selon ce que lui dictent les règles du conseil, elle le fait parce qu'elle est amoureuse ou pour des raisons sentimentales en fait, et que c'est toujours son insertion, elle est guidée par le sentiment, et c'est